Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous. Ah là là, voici venue l'avant-avant-dernière émission de l'année. Comment vous dites, Stéphane ?
L'antépénultième
émission. Bientôt, ça va m'empêcher d'articuler l'émotion. Alors j'en profite pour vous dire bonjour, Stéphane, rapidement.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, c'est émouvant, c'est vrai. Enfin bon, vous savez, Mathieu, faut rester professionnel jusqu'au bout, hein, pour présenter nos trois personnages du jour qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun.
Vous avez raison, Stéphane. Trois nouveaux personnages. Dieu sait qu'on en aura croisé. Chacun dans l'équipe a ses préférés.
Moi, c'est Jean-Claude Vigne.
Oui, certains dans l'équipe ont des goûts de chiottes. Aujourd'hui, justement, c'est une sorte d'hommage déguisé à David Castello-Lopez, dont on sait que cet objet occupe une place importante dans son cœur.
Et pas que le cœur, c'est même lui qui nous l'a dit ici même. Je propose de le réécouter.
J'ai eu brusquement une nouvelle idée de choses à regarder au microscope. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais disons que j'aurais pas pu avoir cette idée quand j'étais enfant.
Non, j'étais sûr que c'était ça. Tu es fou, tu vas trop loin.
Et là, j'ai vu apparaître dans l'objectif des choses minuscules et frénétiques.
Et oui, David, réjouissez-vous. Aujourd'hui, on réunit des, comme vous, des fous du microscope.
Mais eux ont continué plus tard, ils manient l'infiniment petit. Mais pas tout à fait pour le même genre d'expérience, n'est-ce pas ? La preuve avec la biologiste Rosalind Franklin, un nom que l'histoire a oublié, et le prix Nobel de médecine aussi. Pourtant, elle est une pionnière de la découverte de l'ADN, et son parcours force le respect, vous verrez. Puis je vous raconte un scientifique qui lui aussi avait la tête dans le microscope, mais pas uniquement. Alexandre Yersin, c'est son nom, est aussi parti explorer le monde, toujours dans l'optique de faire progresser la science, et il y a réussi. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un artiste qui mérite vraiment sa place dans le Guinness Book des records.
Oui, un destin fascinant. Willard Wigan était un enfant rejeté, dyslexique et autiste. Et il a cherché à inventer un art que personne ne pourrait critiquer. Il a trouvé l'art de l'infiniment petit. Ses statues tiennent, tenez-vous bien, sur la pointe d'une allumette.
Oh, vous pensez qu'il serait libre pour un dîner à la maison mercredi prochain ?
Stéphane, vous êtes ignoble. Willard Wigan est un grand artiste, n'a rien d'un con, je vous le prouverai. Mon portrait giflera votre cynisme.
Et avec nous, comme chaque jour, eux rêvent de réaliser une tour Eiffel en allumette. Ce sont nos célèbres chroniqueurs. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et oui, et pour évoquer une femme qui, elle, aurait davantage eu besoin d'une longue vue que d'un microscope, car c'est une héroïne de l'infiniment grand. Elle a survécu toute seule pendant près de 2 ans dans l'Arctique, ce qui lui a valu le nom de Robinson Crusoe du froid. Elle s'appelait Ada Blackjack. Ah voilà, ça nous changera des
Black
microbes
Jack,
dans le microscope.
Blackjack. Et Black avec Jack. Nous, David Castello-Lopez qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien aujourd'hui.
Oui, vous vous souvenez ? Le hand spinner.
Mais comment on s'en souviendrait ? C'est les enfants d'aujourd'hui qui jouent à ça, c'est pas notre génération.
Alors déjà aujourd'hui, plus personne ne joue à ça, mais ça a été quelques mois de frénésie totale
on
en 2017.
Déjà adulte, 2017, c'est si loin.
Qu'est-ce que c'était ce truc-là ?
C'est un objet qui tourne dans la main, comme ça qu'on fait tourner, et qui a le pouvoir de déstresser ceux qui s'en servent. Et c'est aussi, par ailleurs, on peut faire des espèces de petites figures. Il y avait des championnats dans les cours de récréation de hand spinner.
Ça a fasciné les enfants
pendant très peu de temps.
Et ça s'est arrêté net.
Net comme ça en 2017, donc je vous raconterai, donc je vous dirai un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, et je vous raconterai les origines.
Olivier Pouls est avec nous également, Stéphane, c'est notre expert gastronomique, chaque jour l'histoire d'un beau produit. Aujourd'hui on est vraiment dans le terroir français, dans toute sa splendeur.
D'autant qu'il y en a beaucoup de versions différentes, je ne sais pas quelle est votre préférée, mais nous allons parler de l'andouillette, ou des andouillettes devrais-je dire.
Et quelqu'un avait dit ça sent... Et ça en est vraiment.
Non, ça n'en est pas. Et puis ça sent quand même un peu fort, d'accord, mais une fois que c'est cuit, non. Et une andouillette grillée avec
non, 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 ça
j'adore,
mais ça
sent quand même. J'adore ça.
Moi, je le boudin, personnellement. Mais...
Le boudin noir aux pommes, ça m'étonne pas vous. Mais l'andouillette, pourquoi triple A
Eh bien, je vous explique. Est-ce qu'il y en a qui sont... Triple 5.
5A.
Vous savez qu'il y a un Japonais qui a réussi à obtenir la 5A pour son andouillette. Hein. C'est magnifique.
Mais non.
Un
Japonais.
Je vous expliquerai d'où vient ce label de l'andouillette.
Mais vous aimez ça.
Ah, moi, j'adore ça.
Moi aussi, j'adore ça. Et puis, pour un Lyonnais, on est censé aimer l'andouillette quand même, non ?
Ah oui, mais...
Griller sur le barbecue, par exemple, en ce moment, c'est une pure merveille. J'adore. j'adore ça.
Ah oui.
Tout à l'heure, il y aura également Burn to be Alive, notre quiz qui opposera Stéphane à Clémentine pour les départager, savoir qui est le meilleur en histoire. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage, Rosalind Franklin.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le prochain rover martien de la NASA portera son nom comme un hommage à son destin hors norme.
C'est Zaz. Oh,
qu'est-ce que vous êtes moqueur, Stéphane. Non, plus hors norme encore que Zaz, elle était une savante de l'ombre, un grand esprit scientifique de son temps, injustement pas mise en avant parce qu'elle était une femme. Et pourtant, Stéphane Bern enfile sa blouse blanche et nous raconte une folle du microscope qui a révolutionné la biologie, Rosalind Franklin.
Nous sommes au printemps 1951. 6 ans après la fin de la guerre, Londres n'est toujours pas remise de ses blessures. Contrairement à Paris, que la Luftwaffe a épargné, la capitale britannique porte encore les stigmates des bombardements. La rive sud de la Tamise n'est qu'un champ de ruines. Et pas que la rive sud d'ailleurs. Dans le cœur de Londres, on ne compte plus les bâtiments éventrés. Le prestigieux King's College, l'une des plus anciennes universités du pays, ne fait pas exception. Un cratère de près de 18 mètres de large défigure son campus.
Vous connaissez quelqu'un qui a étudié au King's College de Londres, par exemple, Stéphane, dans votre entourage proche?
Vous?
Myself.
Mais cela ne l'empêche pas de fonctionner à plein régime.
Les auditeurs sont passionnés.
Car l'Angleterre, malgré le marasme ambiant, commence à croire qu'un renouveau économique est possible. Et ce renouveau, certains y croient dur comme fer, passera par la recherche scientifique. Parmi ces cerveaux qui travaillent inlassablement à cette avancée des connaissances, il y a quelques femmes. Oh, pas tant que ça. Londres est une ville encore très conservatrice, une ville d'hommes, pensée pour eux, dirigée par eux. Tout l'opposé de l'image renvoyée à l'époque par la capitale française, alors réputée plus libérale, plus féminine aussi. L'une des chercheuses qui travaille au King's College est bien placée pour le savoir. Elle qui vient tout juste de rentrer de Paris, où elle était admirée et respectée dans son travail, sans amèrement la différence. Au sein même du laboratoire de biochimie où elle travaille, la misogynie règne en maître. L'ambiance qui est d'ailleurs exécrable. Petite crasse et rivalité sont légion. Mais Rosalind Franklin n'en a que faire. Tout ce qui compte pour la jeune chercheuse de 30 ans, ce sont ses travaux. Des travaux qui avancent à grands pas depuis son arrivée au début du mois de janvier. Avec son assistant, un jeune doctorant du nom de Raymond Gosling, Rosalind Franklin a réussi à prendre des clichés remarquables de la structure de l'ADN. Grâce à une technique d'imagerie au rayon X appelée diffraction, ils ont tous deux réussi, le nez ou plutôt les yeux rivés à leur microscope, à photographier des brins d'ADN, la macromolécule qui est le support de la mémoire génétique des organismes. Le travail est minutieux, très minutieux. Nous sommes là dans l'infiniment petit. Le diamètre d'une molécule d'ADN se mesure en nanomètres. Pour le photographier, il faut alors des heures d'exposition, une grande patience et surtout un savoir-faire qu'une poignée seulement de scientifiques commencent à maîtriser à travers le monde. C'est auprès d'un grand ingénieur français, Jacques Mehring, que Rosalind Franklin a patiemment appris cette méthode et toutes ses subtilités. Le taux d'humidité des spécimens photographiés, notamment, crucial pour un résultat de qualité. Alors, sans relâche, elle répète la procédure en faisant varier l'hygrométrie encore et encore, sans jamais se lasser. Rosalind est si préoccupée par l'objectif qu'elle en dédaigne même les précautions de base. Elle ne porte même pas de tablier de plomb durant ses heures d'exposition au rayon X. Ses collègues n'osent trop rien dire. Ils le savent, la volonté de Franklin ne souffre pas de compromis. Et pour elle, le travail compte plus que tout. Du plus loin qu'on s'en souvienne, Rosalind Franklin a toujours été ainsi. Brillante, studieuse et déterminée. Sa tante, alors qu'elle a tout juste 6 ans, l'a décrit comme d'une intelligence alarmante. Alarmante. Le terme trahit bien l'esprit de l'époque. Que va-t-elle bien pouvoir faire de cette intelligence, hein ? Comment la mettre à profit ? Nous sommes en 1926, les femmes britanniques de plus de 30 ans n'ont le droit de vote que depuis 8 ans, hein, je vous le rappelle. Sans surprise, la jeune Rosalind suit de brillantes études. Elle est issue d'une famille riche et a la chance d'étudier dans le prestigieux établissement pour filles de Saint-Paul, l'un des très rares à enseigner la physique-chimie aux filles. Les sciences, elle s'en rend compte dès l'âge de 16 ans, vont devenir toute sa vie. À l'université de Cambridge, qu'elle intègre à 18 ans, elle choisit d'ailleurs la chimie, obtenant sa licence en 1941, puis son doctorat 4 ans plus tard, avec une thèse sur la porosité du charbon. Pourquoi le charbon ? La guerre est passée par là. Elle a été embauchée en 1942 en tant que jeune chercheuse par le BQRA, une association de recherche sur le charbon qui s'intéresse aux filtres des masques à gaz. Participer à l'effort de guerre, cela lui tient beaucoup à cœur. D'autant que Rosalind Franklin est juive et sa famille est depuis longtemps impliquée dans l'accueil des réfugiés du nazisme. Alors, elle fait tout ce qui est en son pouvoir. Et notamment, elle patrouille les rues de Londres durant le blackout en tant que volontaire pour la défense anti-aérienne. Une fois la guerre enfin terminée, Rosalind Franklin s'est faite une réputation grâce à ses travaux sur le charbon. Et par l'intermédiaire d'une amie française, elle se voit offrir dès 1947 le poste de ses rêves. Chimiste dans un laboratoire prestigieux de Paris. Elle, qui est francophile, va donc passer 3 années délicieuses dans la capitale française. 3 années aux côtés de celui qui va devenir son mentor, Jacques Mehring, au laboratoire central des services chimiques de l'État, 12 quai Henri IV, en aval de Notre-Dame. Auprès de cet ingénieur spécialisé dans la diffraction aux rayons X, elle devient une experte reconnue de cette méthode d'imagerie extrêmement pointue. Et lorsqu'elle décide de rentrer à Londres, en 1950, elle n'a pas grand mal à décrocher un poste au prestigieux King's College, dans un domaine très stimulant et tout nouveau pour elle, la chimie théorique appliquée à la biologie. C'est à ce poste qu'elle va faire une découverte historique, une découverte qui mènera à un prix Nobel... Prix Nobel dont elle sera spoliée et dont elle n'aura même jamais eu vent. Le 1er mai 1952, dans les sous-sols de King's College, Rosalind Franklin et son assistant continuent inlassablement de prendre des clichés de molécules d'ADN. Ce jour-là, ils lancent encore une fois le processus. Un brin qu'ils laissent exposer au rayon X pendant toute la nuit est presque à bout portant. Le cliché qui en résulte, le numéro 51, est remarquable. Le plus net jamais obtenu. Un œil novice, c'est une photo abstraite, un disque sombre sur fond blanc, au centre duquel on distingue un tout petit rond duquel s'élancent 4 branches. Le tout ressemble vaguement à X. Mais c'est en réalité une découverte majeure. L'indice qui manquait pour élucider une grande énigme de la biologie, celle de la structure de l'ADN, cette molécule capable de contenir assez de données pour expliquer toute la richesse et toute la diversité organique de notre planète, la base de la biologie moderne. Car ce que cette croix démontre, c'est que la molécule d'ADN est indubitablement en forme d'hélice. Eureka, enfin, eureka, pas pour celle que l'on croit, car la paternité, ou plutôt la maternité de cette découverte, ne reviendra pas à Rosalind Franklin, en tout cas pas de son vivant. Le cliché est accaparé par un collègue, un certain Maurice Wilkins, qui avec l'aide de 2 autres chercheurs, Watson et Crick, en déduit la structure en double hélice de l'ADN. La découverte est publiée en 1953 dans la revue Nature. Le retentissement est immense, la contribution de Rosalind Franklin réduite au strict minimum. Impuissante, la chercheuse a entre-temps fui l'ambiance délétère du King's College, préférant tout oublier et intégrer un autre laboratoire, au Birkbeck College de Londres. 9 ans plus tard, en 1962, la structure en double hélice de l'ADN voit à Wilkins, Watson et Crick le prix Nobel de médecine. Un Nobel pour 3 hommes, mais pas pour la femme, sans qui rien n'aurait été possible. Rosalind Franklin n'en aura même jamais vent. La pionnière est décédée 4 ans plus tôt d'un cancer des ovaires, conséquence probable de son exposition sans protection au rayon X. Elle avait seulement 37 ans. Et elle aura même contribué, encore sans le savoir, à un second prix Nobel, celui attribué en 1982 à un collègue biochimiste du Birkbeck College. Chapeau bas, madame.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler de Rosalind Franklin, nous avons le plaisir d'accueillir une autre femme de science. Bonjour Annabelle Crémer-Lecointre.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Annabelle Crémer-Lecointre. Vous êtes enseignante agrégée en sciences de la vie et de la terre et vous êtes l'auteur du livre « Femmes de science » paru aux éditions de La Martinière. Vous y expliquez que Rosalind Franklin était victime de ce qu'on appelle l'effet Matilda. De quoi s'agit-il ?
Alors, l'effet Matilda, c'est le déni ou la minimisation de la contribution des femmes à la recherche scientifique. Et en particulier aussi le fait que ce soit les hommes, les collègues masculins, qui s'attribuent le mérite, en fait, de leur pensée et de leurs travaux. Donc, c'est l'historienne Margaret Rossiter qui a théorisé cet effet en 1993. Et elle a commencé un petit peu à s'intéresser au nombre de femmes prix Nobel, qui était extrêmement bas à l'époque, 2%. Hein, parmi l'ensemble des lauréats. Aujourd'hui, on doit peut-être être à 5-6%. C'est vrai que Rosaline Franklin est emblématique de cet effet Matilda, mais il y en a eu bien d'autres, en fait, depuis le Moyen-Âge déjà. On regarde Trotula de Salerne, qui était une femme médecin et chirurgienne en Italie au XIe siècle, qui avait produit un traité majeur de gynécologie qu'on a attribué en fait plus tard à un homme.
Mais pourquoi ça s'appelle Matilda ? C'est une simple curiosité. Mais
alors, Matilda, parce que c'est en hommage plutôt à Jocelyn Matilda Gage, qui était en fait une féministe américaine, une écrivaine féministe, et qui a été la première au XIXe siècle à remarquer effectivement qu'une poignée d'hommes s'attribuaient les mérites en fait de travaux réalisés par leurs collègues féminines.
Et alors, qu'est-ce qui a contribué dans l'histoire à cette invisibilisation des femmes dans les sciences ? Quels sont les principaux obstacles, les principaux freins qu'elles ont pu rencontrer ?
Alors, ces freins, c'est un ensemble de facteurs, je dirais, socio-culturels, historiques, qui ont tous contribué à entretenir le mythe du sexe faible et à tenir les femmes durablement écartées, en fait, de l'enseignement, hein, de l'éducation scolaire, de l'enseignement des sciences en particulier. Alors, au premier rang de ces facteurs, évidemment, il y a le patriarcat, et ça depuis au moins, on va dire, le néolithique, hein, depuis que les sociétés humaines se sédentarisent, qu'il y a une répartition sexuée des tâches. Et puis, dans ce contexte patriarcal, il y a d'autres facteurs qui vont contribuer à le renforcer. Je pense notamment aux interprétations, à certaines interprétations faites par des hommes, pour des hommes, des textes sacrés des trois principaux monothéismes, où la femme est enfermée dans le carcan de la procréation, celui de l'entretien du foyer domestique. Et puis, il y a aussi eu tout un tas de théories médicales fallacieuses. Hein. Ça commence par l'utérus, hein, dès l'Antiquité, qui est vu comme un organe pathogène et débilitant.
Oui, c'est beaucoup.
Rosaline Franklin, elle a laissé une vaste correspondance. En la lisant, on découvre quel genre de personnalité. Elle évoque sa place de femme dans un milieu exclusivement masculin ou elle n'en parle pas ?
Oui, alors vous l'avez dit, Stéphane, c'était une femme qui était extrêmement indépendante, très moderne. Elle était aussi très exigeante avec elle-même, avec les autres. Passionnée de science, très déterminée. D'ailleurs, à 20 ans, elle écrit une lettre à son père et puis elle lui fait comprendre que la science, ça va devenir le pivot central de sa vie et qu'il est hors de question qu'elle se consacre à des œuvres caritatives puisque c'est effectivement la tradition dans la famille. Puis alors, elle décrit effectivement aussi sa place au King's College où c'est les deux années les plus épouvantables de sa vie. Il y a de la misogynie, mais en fait, elle a souffert d'être une femme, mais d'être une femme juive et issue de la haute bourgeoisie, en fait, qui avait immigré en Angleterre au XVIIIe siècle. Et donc, elle écrit d'ailleurs à une de ses amies au King's College, il n'y a ni juif ni étranger. Bon, ce qui n'était pas tout à fait juste, mais pour vous dire l'état de souffrance dans lequel elle était. Et finalement, pour elle, c'était plus important de quitter King's College que de terminer ses travaux sur l'ADN.
Stéphane a expliqué, si Rosaline Franklin est parvenue à déterminer la structure de l'ADN, ses découvertes ont été spoliées par des chercheurs qui ont obtenu le prix Nobel de médecine grâce à elle. Vous racontez dans votre livre qu'ils ont même osé minimiser les apports de Rosaline Franklin à cette découverte. Ça faisait partie de leur stratégie de carrément décrédibiliser Rosaline ?
Exactement. Alors, ça s'est produit au moment de la remise du prix Nobel. Bon, effectivement, Rosaline était décédée depuis 4 ans, mais il n'y a pas eu mention, en fait, de sa contribution importante. Et il faut quand même savoir que Watson et Crick, qui ont publié leurs travaux dans la revue Nature en 53 sur la structure de l'ADN, ils ont publié des travaux sur un modèle, en fait, un modèle théorique. Et il n'y avait absolument aucune preuve expérimentale, à part celle fournie, en fait, par Rosaline Franklin. Donc, on peut se demander, aujourd'hui, d'ailleurs, la validation par les pairs de ce genre de travaux aurait peut-être pas été obtenu. Et Watson va même publier un ouvrage en 1968, The Double Helix, dans lequel en fait il minimise complètement la contribution de Rosaline Franklin à cette découverte.
Et alors, elle aurait pu passer complètement aux oubliettes de l'histoire. Elle a quand même été redécouverte, réhabilitée. Comment ça s'est passé ?
Effectivement, en fait, elle aurait pu passer aux oubliettes, mais Watson a fait une erreur énorme. C'est-à-dire que dans The Double Helix, non seulement il minimise l'apport de Franklin, mais en plus, il la dépeint comme une personne acariâtre, austère. Enfin, une attaque à la personne. Hein. Je pense que c'est le procédé le plus lâche qui soit quand on veut écarter quelqu'un. Et ça déclenche, en fait, la colère de ses amis, la colère de ses collègues aussi scientifiques qui ont travaille avec elle. Et donc, ils prennent sa défense. Et là, ça commence à devenir une icône. On exhume ses travaux, sa correspondance, et elle est réhabilitée. Et elle reçoit à titre posthume le prix Louisa Gross Horvitz en 2008.
Depuis, les travaux sur l'ADN se poursuivent et vous mettez en avant une autre as du microscope, la chercheuse Barbara McClintock. Son travail a obtenu, pour elle, plus de reconnaissance de la part de ses pairs masculins ?
Alors, c'est un peu différent pour Barbara McClintock. C'était une femme qui était extrêmement reconnue, d'ailleurs comme Rosalind, hein, avant qu'elle soit au King's College et même après. Mais Barbara McClintock, elle a reçu un prix Nobel très tardivement. Elle a été reconnue par ses pairs, elle faisait partie de l'Académie des sciences américaines. Mais ses travaux, elle était cytogénéticienne, hein, donc elle avait de grandes compétences techniques. Elle a mis en évidence en fait la présence de transposons, c'est-à-dire d'éléments mobiles dans l'ADN. Et à l'époque, elle avait 25 ans d'avance sur ses collègues qui ne pouvaient pas comprendre en fait ses travaux. Et donc c'est quand on a commencé à pouvoir comprendre ses travaux qu'elle a eu un prix Nobel à l'âge de 81 ans.
L'idée de votre livre, bon, c'est évidemment de réhabiliter ces femmes de science. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes de science sont traitées au même niveau que les hommes de science? C'est aussi une autre question. Est-ce que c'est fini l'invisibilisation des femmes en science, ou il y a encore des mecs dans les labos qui disent c'est plutôt moi qui ai eu l'idée?
Ah non, c'est pas du tout fini. Et puis on a parlé d'effet Matilda, mais aussi le plafond de verre, hein, où les femmes effectivement sont maintenues à des postes qui sont à responsabilité moindre en général. Et puis on va dire que l'historiographie française est très sélective. Mmh. Je parle de l'historiographie française en particulier. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que les travaux sur les women's studies ou les gender studies dans les années 70 ont vraiment beaucoup contribué à rendre plus visibles ces femmes. Mais la France est à la traîne sur ces questions.
Moi, j'ai du mal à comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Et s'il y a un domaine dans lequel il ne doit pas y avoir de différence dans les sexes, c'est bien la science, c'est des faits. C'est pas, à la limite, en littérature, on pourra toujours dire « Ah oui, mais son style, c'est pas ça », et prendre prétexte de quelque chose. Mais en science, les faits sont les faits. Donc une fois, comment on peut ne pas reconnaître à une femme scientifique le même talent que son collègue masculin, si elle a découvert quelque chose?
Mais c'est un phénomène complètement culturel, hein, je veux dire, même idéologique. On n'a pas envie de braquer les projecteurs sur les femmes. Les mentalités doivent changer, en fait. C'est tout. Effectivement, elles sont là, vous avez raison, et elles sont là depuis le début. Hein. Oui. Je parle d'Hypatie dans mon livre au 5e siècle. Elles ont de tout temps contribué à la production scientifique ou à la diffusion des sciences.
Mais on ne les nomme pas, par exemple, à la tête de laboratoire. Mmh. Si bien que ce sont toujours des hommes qui peuvent revendiquer les travaux. Est-ce que vous-même, vous avez été au manque de sources concernant les femmes scientifiques?
Oui, j'ai été confrontée à ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose en langue française pour certaines d'entre elles. Par exemple, Hypatie, il y a des choses en espagnol, il y a des choses en anglais. J'aurais bien voulu faire le portrait quand même d'Émilie Notaire, qui est une grande algébriste. Et les mathématiciens et mathématiciennes savent ce qu'ils lui doivent, hein, à cette grande dame, dont Einstein disait d'ailleurs que c'était un pur génie mathématique. Il n'y a absolument rien en français sur cette femme-là. Il n'y a que des textes en allemand, une langue que moi je ne maîtrise pas très très bien. Mais oui, j'ai été confrontée à ce problème, à un manque de sources diversifiées, alors que les faits sur leurs travaux sont attestés historiquement.
Vous avez choisi dans ce livre donc, le format de l'interview, beaucoup d'interviews, donc évidemment inventées, puisque pour la plupart, ces femmes ne sont plus là depuis très longtemps. C'est une manière de leur redonner la parole qu'elles n'ont pas eue à l'époque.
Oui, tout à fait. En fait, évidemment, c'est subjectif, hein, mais pour moi, c'était surtout... Je ne voulais pas qu'il y ait, de rupture entre la parole de ces femmes-là et la parole des femmes chercheuses qui sont à la fin de l'ouvrage et qui sont des femmes actuelles. Je trouvais que ça donnait plus de force à leurs propos, ça rend aussi la lecture plus vivante. Après, ça n'a pas été simple, parce que confrontée à cette difficulté de la diversité des sources, il ne fallait pas que je trahisse qui elles étaient. Donc ça veut dire se renseigner, effectivement, avoir une idée assez précise de leur personnalité, resituer leurs travaux dans la science de leur époque, mais aussi la place des femmes dans la société de leur temps, quoi.
Annabelle Crémer-Lecointre, en tant qu'enseignante en sciences de la vie et de la Terre, avez-vous le sentiment que les choses avancent dans notre pays, que les carrières scientifiques aussi s'offrent davantage aux femmes? On dit toujours que les femmes sont bien meilleures, notamment jusqu'au bac, je crois, dans toutes les matières scientifiques. Est-ce que ça se confirme? Après, il y a de plus en plus de femmes à Centrale et à Polytechnique, hein, quand même.
Oui, il y en a de plus en plus. Après, toutes ces grandes écoles, elles sont ouvertes très tardivement aux femmes. Hein, 1974, pour Polytechnique, si je me souviens bien. Voilà, pour une école qui a été créée plus de deux siècles avant. Moi, je trouve que ça avance très lentement. Il y a aujourd'hui la part des femmes dans la recherche. C'est 28% de femmes en France qui sont chercheuses. La moyenne en Europe, c'est 33%. Je pense à la Roumanie où c'est 46%. Donc la France, elle n'est pas très très bien placée. Et vous le disiez, les filles réussissent très bien jusqu'au bac. Elles ont même un peu plus souvent de mentions que les garçons. Bon, c'est quelques pourcents, hein, je veux dire, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Mais il y a une espèce de tuyau percé comme ça. C'est-à-dire qu'à l'université, elles sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure qu'on s'avance vers le doctorat. Elles sont peu présentes aussi dans les écoles d'ingénieurs ou dans les classes préparatoires ou grandes écoles, à peine 27-28%. Et ça, c'est le poids de l'histoire. Hein. C'est des stéréotypes qui sont tellement bien ancrés que parfois même les filles n'en ont pas conscience, mais elles se ferment les portes aussi, parfois elles-mêmes. Puis on manque de modèles féminins. C'est pour ça qu'il faut en parler.
Merci. Merci de l'avoir fait.
Merci à vous.
Merci Annabelle Crémer-Lecoin de nous avoir éclairé sur Rosaline Franklin, restée hélas dans l'ombre de l'histoire des sciences. Je rappelle que votre livre « Femmes de science » est disponible aux éditions de La Martinière.
Merci à vous Mathieu et Stéphane.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais prendre de gants. C'est Clémentine Portier-Caltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, des gants, pourtant, il en faut, et même des épais, puisque vous nous entraînez dans l'Arctique à la rencontre d'Anna Blackjack, une héroïne de l'infiniment grand.
Et oui, des gants, d'ailleurs des gants qui devaient être en peau de lapin là, ou en fourrure, j'imagine, à l'époque. Il n'y avait pas encore toutes les matières imperméables que nous connaissons de nos jours. Puisqu'on est en 1921, et c'est un explorateur arctique qui se nomme William Ure, non, Wilhelmur, c'est le William en scandinave, hein, Stefansson, je veux dire Stefansson.
Hein. Oui, c'est mieux.
Alors Stefansson monte une expédition pour aller revendiquer l'île Wrangel, qui a déjà été découverte bien longtemps auparavant, mais là il veut la revendiquer au nom du Royaume-Uni et du Canada. Donc lui-même ne va pas faire le voyage, mais il constitue une équipe de 4 hommes, des Américains et des Canadiens. Et ces 4 hommes ont quand même pour particularité de n'avoir absolument aucune expérience dans ce genre d'aventure. Mais c'est pas grave, ils sont tout feu, tout flamme. Alors ils arrivent à Solomon en Alaska pour rassembler matériel, provisions, et puis pour embaucher un petit peu d'aide pour l'expédition. Et c'est là qu'une Inupiaq de 23 ans, puisqu'il ne faut pas dire, on ne dit plus Eskimo, mais en fait elle était Inupiaq, très exactement, Ada Blackjack, entend dire qu'on propose un emploi de couturière à $50 par mois, ce qui est une somme substantielle à l'époque. Or, il se trouve qu'elle est veuve et elle a désespérément besoin d'argent pour faire soigner son fils Bennett, qui a 5 ans et qui est malade de la tuberculose. Alors, elle est prête à s'embarquer dans cette aventure invraisemblable de découverte de l'île Wrangel pour glaner de l'argent pour son fils. On lui dit de toute façon qu'elle ne sera pas la seule femme avec ses 4 hommes, donc elle y va et c'est là qu'elle découvre que finalement, eh bien, elle est l'unique personne à rejoindre l'équipe et la seule femme. Le 9 septembre 1921, le Silver Wave, donc la voile d'argent, met les voiles, précisément pour l'île Wrangel, avec ses 4 hommes, Ada Blackjack et le chat du navire, Victoria, dit Vic. Les premiers mois se passent parfaitement bien parce qu'on a quand même un équipement assez complet, assez de quoi manger. L'équipe construit un camp, on explore l'île, on chasse pour se nourrir et on survit plutôt confortablement parce que Stefansson leur a acheté des provisions à profusion. Mais les problèmes commencent avec l'hiver parce qu'autour de l'île Wrangel, la mer se transforme en une épaisse banquise et l'équipage un peu de bras cassés, il faut bien le dire, n'a pas anticipé comme il le fallait. Le fait que le bateau qui devait les alimenter, enfin apporter des provisions, ne pourrait pas venir jusqu'à eux. Et donc, c'est ce qui se passe. Ils sont condamnés à rester sur l'île jusqu'à la débâcle, c'est-à-dire jusqu'à la fonte des glaces qui, enfin, permettra à un bateau de venir jusqu'à eux. Début 1923, la situation est absolument atroce. Toute l'équipe meurt de faim. L'un des membres souffre du scorbut. Oh, et donc, les 3 hommes qui tiennent encore à peine debout se disent, bon, on va laisser le malade sur place. Il s'appelle Lord Knight et Ada avec lui pour s'occuper de lui. Et on va partir chercher de l'aide à pied, bien sûr, en Sibérie. Bon, les 3 gars, là, on ne les a jamais revus. Donc, ils doivent être quelque part...
On n'a jamais retrouvé leur corps.
Jamais. Cryogénisés, pas façon Pulse, mais dans leur intégralité.
Peut-être avec la fonte des glaces, maintenant, on va peut-être les retrouver.
Ah bah tout à fait, on les retrouvera sans doute. Ça nous fera une belle jambe, mais on va sans doute les retrouver.
Mais même pas de respect pour les morts, Stéphane.
Mais si, au contraire.
Non, si, si. Non.
Pour qu'ils aient une sépulture chrétienne.
Bien sûr, mais enfin, ils ont... Oui, vous avez raison, une sépulture chrétienne. Bon, alors, toujours est-il que pendant ce temps-là, comme Knight est bien trop faible pour faire quoi que ce soit, c'est Ada, la jeune fille, là, qui se charge de tout, de trouver de la nourriture, du bois de chauffage. Elle n'a jamais chassé ou pêché de sa vie, mais elle s'y met. Elle apprend à tirer au fusil, à poser des pièges, à réparer les tentes, à identifier quelques lichens ou quelques plantes indigènes éventuellement mangeables ou utilisables pour le feu une fois séchées, à repousser les ours polaires qui traînent traînaille autour du campement. Elle s'accroche à l'espoir de revoir son fils. Et pendant ce temps-là, elle s'occupe du malade, la Knight, avec dévouement pendant 6 mois. Le malheureux lui devient complètement fou. Entre deux crises de folie, lui demande de lire la Bible. Mais enfin, la plupart du temps, il l'insulte, il la menace et il finit, le malheureux, par mourir le 23 juin 1923. Elle se retrouve toute seule sur une île absolument désolée et frigorifique, sans rien à boulotter. Non, mais vous imaginez le tableau. Et elle n'a plus pour compagne que Vic, le chat du bord, qu'elle n'a quand même pas mangé. Bravo, hein. Et elle lit la Bible. Voilà ce qu'elle fait de ses journées. Alors qu'elle est... Elle survit depuis 8 mois sur l'île, dont 2 mois entièrement seule, mais enfin, quand son compagnon était encore de ce monde, de toute façon, il était à moitié fou. Eh bien, soudain, elle aperçoit au loin une petite goélette, le Donaldson, surgit de nulle part, le 20 août 1923. Ça y est, Black Jack et Vic regagnent enfin l'Alaska, où la nouvelle de l'exploit de la femelle Robinson Crusoe, et c'est bien la terminologie de ce début du 20e siècle, hein. Elle a survécu aux conditions inimaginables de l'Arctique, et cette nouvelle s'est rapidement répandue. Naturellement, elle retrouve son fils, qui a maintenant 7 ans. Elle va utiliser tout l'argent qu'elle a gagné pour le faire soigner, et il se remettra, ce petit garçon. Pendant qu'elle ressombre à nouveau dans la plus grande précarité, que croyez-vous que fait Stefansson ? Eh bien, il publie un livre sur l'expédition, où d'ailleurs il n'hésite pas à mettre Ada en accusation pour n'avoir pas réussi à sauver Lord Knight. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Il avait du scorbut. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ?
À lui donner des oranges ou du citron pour le scorbut, c'était excellent.
Oui, bah, du citron à l'île Wrangel, vous m'en dénicherez, cher monsieur.
Il fallait faire planter.
C'est horrible.
Alors c'est affreux. Alors elle n'a pas vu un centime, un sous-vaillant des profits que Stefansson a réalisés en vendant cette histoire. C'est absolument dégueulasse. Plus magnanime, la famille de Knight lui a proposé de conserver la Bible familiale qu'elle était venue lui restituer, et elle a conservé cette Bible jusqu'à sa mort. Génial. Oui, bah au moins c'était des nourritures spirituelles. Ouais. Elle a conservé ça jusqu'à sa mort en 1983. Ada Black Jack, dont vous ne connaissiez pas le nom il y a encore 10 minutes, est toujours considérée comme l'une des exploratrices arctiques, j'arrive pas à dire le nom décidément, les plus courageuses de l'histoire, comme une héroïne de l'infiniment grand, la Robinson Crusoe du froid.
Merci Clémentine. Belle histoire.
Très très belle histoire. Injuste. Et après une héroïne de l'infiniment grand, 2 héros de l'infiniment petit. Le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est la 418e édition du quiz. Alors, on va remettre les pendules à l'heure, mes petits cocos, aujourd'hui.
C'est les vacances dans 2 jours.
Que s'est-il passé hier ? Vous avez la mémoire courte, mais hier, il s'est passé quelque chose de gravissime dans le quiz. Vous avez répondu à la dernière question, la question 5, avant même que j'aie énoncé les réponses. Si cette chose se produit aujourd'hui, si vous récidivez, 10 points 10 points seront enlevés.
Mais vous savez même pas combien.
À votre compteur. Je sais tout, mais Stéphane Bern. Je sais tout, simplement je ne le dis pas.
Oui, voilà.
Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Jouons à Bern to be alive. C'est en 1927 que les historiens africains eux-mêmes reconnaissent à Charles Dunbar Burgess King la première véritable élection totalement démocratique sur le continent africain. Il a été élu président du Libéria avec 234 000 votes. Vrai ou faux ?
Je crois pas. Il y a d'autres pays où il y a eu des votes démocratiques en Afrique.
Mm-hmm. Avant 1927. Non, 1927 au Libéria.
Pose la question. Attends,
234 000 votes.
234 000,
il était surnommé Charles D.B. King.
Oui.
Bien sûr, vous situez.
Écoutez Stéphane, où y aurait-il pu avoir un vote démocratique ?
Parce que
là, en Afrique du Sud...
En Afrique du Sud, c'était très démocratique.
Oui, c'est pas très démocratique.
Attendez. J'essaye d'imaginer. Oui, vous avez raison, tout le reste était sous colonie.
Moi, je pense que c'est vrai, mais j'aurais vu ça avant. Parce qu'il me semblait que la fondation. En quelle année, dites-vous ?
On est en 1927.
Bon, je vais dire oui.
Vous avez perdu.
C'est faux. Voilà, et pas de regret à voir, c'est complètement faux. L'élection dont je vous parle date effectivement de 1927, c'est au Libéria. Ce n'est pas du tout la première élection démocratique d'Afrique, c'est même la pire. Elle est dans le livre Guinness des records comme étant la plus frauduleuse élection de l'histoire. Charles D.B. King a obtenu effectivement, je vous le disais, 234 000 votes. Petit problème, il n'y avait que 15 000 votants dans le pays. Donc forcément, il y avait une petite fraude.
De toute façon, le Libéria, est-ce qu'il n'est pas créé bien avant 1927 ? C'est pas une création de la fin du 19e, le Libéria, non ? Bon, on vérifiera ça tout à l'heure.
Nous vérifierons tout à l'heure. Ce n'est pas la deuxième question du quiz. La deuxième question porte sur l'État du Mississippi. En quelle année l'État du Mississippi a-t-il aboli l'esclavage ? 1963, 1983 ou 2013 ?
Moi, je dirais 2013. Sans doute, c'est partie de ces trucs qu'on oublie.
En 2012, ouais, vous pouviez avoir encore des esclaves sur votre plantation.
Mais ça n'avait jamais dû être supprimé
des
textes de loi locaux, bien sûr.
1963, 1983 ou 2013 ?
Ce qui serait le plus spectaculaire, c'est que ce soit 2013, en effet. Mais
ça serait effectivement assez spectaculaire.
Mais l'époque où vraiment on rebrasse absolument tout et la question des droits civiques aux États-Unis, c'est plutôt les années 60. Donc, est-ce que ça serait pas avec Luther King, c'est 64 Est-ce qu'il y a une... Oui, bah écoutez, je veux dire 2013, en effet.
Vous avez.
Stéphane, cessez d'aider Clémentine.
Mais pourquoi ?
Elle gagne à vos dépens.
Clémentine, c'est ma copine.
En 2013, c'est en regardant le film sur Lincoln de Steven Spielberg qu'un universitaire a fait des recherches sur le document de la ratification du 13e amendement concernant l'abolition de l'esclavage. Il n'avait pas été ratifié dans cet état du Mississippi. Ça a donc été chose faite. Ils ont rectifié le tir le 7 janvier 2013. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Juin 1955, c'est les 24 heures du Mans, cette course que vous adorez. Vous y êtes chaque année. Il va y avoir un drame. C'est le moins qu'on puisse dire. Un accident qui va coûter la vie à 82 personnes et faire 120 blessés. Ça, c'est du carambolage. Il existait une tradition dans ces courses automobiles. On n'arrête jamais une course en cours. Celle-ci ne fera pas exception. La compétition ira à son terme malgré les 82 Maccabées. Vrai ou faux ?
Si c'est vrai, c'est scandaleux. Mais si c'est... Pourquoi cette question si c'est faux ? Parce que...
Je ne veux pas vous orienter.
C'est vrai, parce que si c'était faux, ça n'aurait qu'un sens.
Il y a eu 82 morts une des épreuves de... Incroyable.
Vous avez gagné.
Oui, c'est vrai, Stéphane, votre raisonnement était le bon. Au-delà de la tradition de ne pas stopper une course, la compétition, donc ces 24 heures, n'a pas été arrêtée pour une raison plus simple. Si on avait arrêté la compétition, les 300 000 spectateurs qui étaient réunis autour du circuit auraient quitté les lieux en prenant leur voiture et auraient bloqué les routes, empêchant les secours d'arriver. Il faut réfléchir. Ouais. Vous l'avez fait, mais c'est par hasard que vous avez donné la bonne réponse. Et c'est dommage, Stéphane, c'est dommage, parce que je voudrais peut-être accorder un point bonus s'il y avait eu un raisonnement
avec
plus poussé.
Si, vous savez, on met Paris en bouteille.
Question numéro 4. Nous sommes... Ce qui est marrant, c'est que ce qu'ils me disent en régie, vous trouvez que ce que je vous dis, moi, en tant qu'animateur de ce jeu, n'a aucun sens. Et vous trouvez parfois que je triche. Mais si vous entendiez ce qu'ils me disent en régie, c'est-à-dire qu'eux n'ont plus de filtre. C'est-à-dire que là, je vais vous dire sans filtre ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, j'ai demandé le compte, ils m'ont dit un partout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait du coup, puisqu'il faut qu'on arrive à la question 5. Ils m'ont dit, on s'en fout, c'est la question 4, elle vaut 0 point. Une question pour 0 point, Clémentine. Attention, c'est une question importante. L'enjeu est énorme.
Je refuse de répondre à cette question qui ne me rapporte rien.
On vous aurait 0 point.
Vous refusez
les
rien.
Les Kennedy ont marqué l'histoire des États-Unis et la faute à qui ? Eh bien, à maman. Maman Kennedy, la maman de John Fitzgerald. Elle a quand même donné naissance à 9 enfants. En France, qui a poussé une chansonnette en son honneur ? Michel Sardou ?
Benjamin Biolay.
Ah, il a répondu. Il a répondu avant la fin de la question. Un point de moins.
Ou Patricia Cass.
Il a fait un album qui s'appelle Rose Kennedy.
Je vous donne l'opportunité de bien réfléchir à la réponse.
Bah écoutez, comme la réponse vaut zéro, de toute façon, d'après ce que j'ai compris. Alors, je vais répondre. Est-ce que vous m'avez dit Sardou ? Et quel était le dernier ?
Patricia Cass.
Mais non, c'est...
Vous avez... gagné.
Je suis pas Rose Kennedy.
Patricia Cass, vous avez confondu. Patricia Cass et Benjamin Biolay. Je vous saviez nul en variété française, Stéphane.
Parce que je voulais pas répondre ce qui m'avait soufflé.
Son album s'appelle Rose Kennedy.
Tout de même, Stéphane, enfin, confondre Benjamin Biolay. Que soi-disant vous connaissez bien avec Patricia Cass, il nous écoute.
C'est la meilleure, celle-là.
C'est terrible. C'est Patricia qui chante, les paroles sont de Barbe Olivien, comme toutes les autres chansons.
De toute façon, vu que ça me rapporte zéro...
Question numéro 5. Donc là, je vous rappelle l'incident d'hier. le premier qui me donne, qui ose oui, me donner bon, la réponse.
Mais alors, touché,
que j'ai fini d'énumérer sera sanctionné de 10 points en moins. Question 5. 9 juillet 1962, les États-Unis testent une bombe nucléaire de 1,4 mégatonnes. C'est beaucoup. L'explosion a été bien plus puissante que prévu, les dégâts aussi. Mais où a eu lieu cette explosion ? 3 propositions. Dans une grotte sous-marine ? Dans l'espace ? Dans le port d'Amsterdam ?
Non, dans l'espace. Je crois qu'ils voulaient bombarder la Lune. Et ils ont dû y renoncer, me semble-t-il.
C'est une victoire. Sans appel de Clémentine Portier-Kaltenbach, une explosion qui a eu lieu dans l'espace à 400 km au-dessus de Hawaï. L'explosion nucléaire a provoqué la destruction de satellites et a grillé toutes les ampoules et tous les lampadaires sur des millions de kilomètres carrés au sol. C'est quand même inquiétant. Avec la création également d'un champ magnétique qui a ouvert des portes de garage automatiques dans plusieurs villes d'Hawaï, ainsi qu'une ceinture de radiation qui a duré plusieurs années. Et on ne nous avait pas dit ça.
Non, je
et c'est dans le
pas,
quiz vous que vous le découvrez. Grâce...
Entre ça et Patricia Cass, ouais. J'espère que vous êtes bluffés, les gars.
On aurait écouté Benjamin Biolay, il a dû appeler le standard,
il a fait un album.
Oui, de l'album, mais il n'y a pas la chanson, il ne parle pas de la maman dans une chanson. Et non, Stéphane, il faut admettre ses lacunes, ses limites. Vous, c'est le patrimoine, les éoliennes.
Je vais vous le faire écouter. Voilà.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vaud, l'émission qui passe l'histoire au microscope, à la découverte de ces petites histoires qui font la grande.
Oui, et vous ne croyez pas si bien dire aujourd'hui Stéphane, puisqu'on réunit un peu les pères spirituels de David Castello-Lopez, des fous du microscope. Comme David quand il était ado, ils aiment manier l'infiniment petit.
Après la biologiste découvreuse de l'ADN, qu'on a malheureusement découverte sur le tard, Rosalind Franklin, je vous présente Alexandre Guersin, à la fois médecin et aventurier. Si les voyages forment la jeunesse, les siens ont fait avancer la science, vous allez voir.
Pour ma part, Stéphane, je vous brosserai le portrait d'un artiste vraiment exceptionnel qui s'est fait un nom dans l'art de l'infiniment petit. Certaines de ses sculptures tiennent dans le chat d'une aiguille. Il s'appelle Willard Wigan et son destin mérite un biopic, un peu comme nos chroniqueurs préférés, à commencer par celui qui nous a inspiré cette émission, David Castello-Lopez, qui nous raconte les origines de ce qui fait notre quotidien, qu'il a fait pendant... quelques petits mois.
Tout à fait, le hand spinner, quelques mois en 2017, un feu de paille de mode. Je vous raconterai les origines. Elles ne sont pas faciles à trouver, même les origines du hand spinner.
C'était une dure mission pour vous.
Oui.
Honnêtement rémunéré, on l'espère.
Tout à fait.
Olivier Pouls est avec nous, Stéphane.
Oui, alors lui, c'est le roi de l'andouillette.
Ouais. Oui, alors ça, c'est un beau surnom. Et alors, l'andouillette, ça sent fort ?
Alors.
Et ça vient d'où ?
Quand c'est cru, ça peut sentir un peu fort. Ça sent un peu fort quand ça... Oui, non, pas tellement. Et puis surtout, quelle différence entre l'andouille et l'andouillette ?
Et ça vient d'où, l'andouillette ?
Et ça vient d'où, l'andouillette ? Mais je répondrai à cette question.
Est-ce que c'est gras, l'andouillette ?
Non, c'est pas gras. Ça fait partie de ces choses où on pense que c'est gras, mais c'est pas gras. Non, non, c'est essentiellement fait avec des parties maigres du porc. C'est pas très gras.
On va pouvoir entamer un régime à l'andouillette. Ça va changer ma vie.
Surtout en été, ça fera plaisir à vos voisins quand vous mettrez les andouillettes sur la plancha ou sur le barbecue. Il faut dire que dans le quartier, ils ont un certain succès.
Hein. Ça sent bon.
Ouais, avant que David et Stéphane ne défaillent, nous allons poursuivre cette émission. Il y aura évidemment en fin d'émission ce moment extrêmement attendu, surtout en fin de saison, la lutte finale. Qui sortira ? Qui sera le grand vainqueur de notre compétition historique ? Déjà, on sait que ça ne sera pas moi. De ce côté-là, le suspense, déjà, pour tous mes fans, c'est fini.
Enfin, en français,
ce sera peut-être Olivier.
Heureusement
qu'il n'y a pas de quiz de français. C'est bien de... Alors Stéphane, là, vous venez de commettre une erreur. Puisque sans le savoir, vous venez de perdre 5 points dans le quiz Burn to be Alive qui aura lieu demain. Donc vous pouvez risquez de perdre votre titre.
On a touché une corde sensible.
Oui, une corde sensible sur le français.
Vous n'aimez pas la vérité.
Non, mais je ne suis pas français, je suis suisse. Oui. Tout de suite, Stéphane Bern nous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h, 18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
En Chine, il est quasiment un dieu vivant.
Patrick Sabatier.
Oh, j'ai envie de dire plus encore, Stéphane. C'est que ça paraît fou, mais lui, son destin l'est. Il est tout à la fois explorateur et brillant chercheur. Stéphane Bern nous raconte un savant français trop peu connu ici, Alexandre Guersin.
Nous sommes le 9 juin 1893, au cœur des montagnes centrales du Vietnam, dans le pays Moi, aux confins de l'Indochine française. C'est un territoire terriblement accidenté, compris sur la carte entre la côte d'Annam et le Mekong, à l'endroit où le fleuve Dong Nai prend sa source. un territoire dangereux peuplé d'une tribu hostile aux intrusions, un territoire infesté de maladies grouillant, de bestioles dangereuses, de tigres. Et en cette saison des pluies, infesté aussi de sangsues. En certains endroits, ça, on ne fait pas 20 pas.
Vous êtes sûr que c'était un tigre, ça,
oui,
Stéphane?
Oui, c'était un tigre.
C'était un tigre, c'était plutôt un chat qui avait peut-être un problème gastrique.
Non,
hein,
non,
je pense
non,
plutôt.
Non, c'est un vrai tigre, ah, oui. Méfiez-vous. En certains endroits, on ne fait pas 20 pas sans en enlever une douzaine qui viennent se coller sur votre peau. Et c'est sans parler des pirates de la montagne qui, armés jusqu'aux dents, terrorisent les alentours, prêts à tout pour dépouiller les petits villages de la région. En ce mois de juin, un homme, pourtant un Français, s'y est aventuré. Il a 29 ans, il est missionné par le gouvernement pour explorer cette région méconnue, en reconnaître les ressources et surtout y déterminer le tracé d'une route qui relierait Saïgon à la côte d'Annam. Alexandre Yersin n'en est d'ailleurs pas à sa première expédition du genre. C'est la troisième qu'il mène sur ces hauts plateaux. Et malgré les privations, les dangers encourus, les fatigues, les misères, la dysenterie contractée lors de son précédent voyage, il a choisi de revenir au mépris du danger. Alexandre Yersin n'est pas craintif, c'est le moins qu'on puisse dire. La preuve, en ce 9 juin, entendant parler d'une bande de pirates armés de fusils, de lances, de piques, de sabres et de coupe-gorge, il vient de prendre la décision de les poursuivre dans la jungle. Accompagné de 3 hommes seulement, 3 locaux, il va les surprendre en pleine nuit dans un village, les menacer d'un revolver écopé de quelques coups de massue et même d'un coup de sabre qui lui coûte la moitié de son pouce pour finalement réussir à les faire fuir. Quel courage cet Alexandre Yersin! On l'imagine barbu, costaud, peut-être même des balafres au visage, le genre de personnage bourru habitué aux bagarres, téméraire au point de se demander s'il n'est pas un peu fou ou même un peu bête. On pourrait ne pas être loin de la vérité. Certes, Yersin est barbu, mais il n'a rien d'un fou et encore moins d'un imbécile. Cet homme qui se bat dans la jungle est même un scientifique célèbre dans le monde entier. Un ancien médecin de l'Institut Pasteur, collègue de l'éminent bactériologiste et immunologiste français Émile Roux, avec qui il a vaincu la diphtérie à peine 3 ans plus tôt, maladie qui fait alors des ravages en France. Un médecin, un chercheur, un aventurier, Alexandre Yersin collectionne les casquettes. C'est un touche-à-tout, un passe-muraille, disent certains. Un savant curieux, productif, interdisciplinaire, et doué bien sûr, oh là, très doué, au point d'exceller dans tout ce qu'il touche. En cette année 1893, son pédigré en témoigne déjà, et le plus impressionnant reste à venir. Né en 1863 en Suisse, dans le canton de Vaud, Alexandre Yersin entame à 20 ans des études de médecine à Lausanne, les poursuit en Allemagne, puis enfin à Paris. C'est là, dans la capitale d'un pays dont il prend bientôt la nationalité, qu'il mène de front études et travaux de recherche bénévoles dans le laboratoire de celui qui vient d'inventer le vaccin contre la rage, Rudulm. C'est là qu'il découvre, à seulement 25 ans, en 1888, la toxine diphtérique, une découverte majeure. Puis, oh surprise, l'étoile montante de la biologie s'engage comme médecin des messageries maritimes, une compagnie de transport spécialisée pour les lignes d'Extrême-Orient. Le poste n'est qu'un prétexte pour assouvir le besoin d'aller voir ailleurs. Yersin se lance très vite dans un projet, l'exploration des hauts plateaux de l'intérieur de l'actuel Vietnam. Puis 2, puis 3, d'abord à son compte, puis en tant que médecin militaire pour le service de santé coloniale. De là, sa rencontre avec les pirates des montagnes, mais un ennemi plus dangereux encore l'attend. L'année suivante, Alexandre Yersin est mandaté par le gouvernement français et l'Institut Pasteur pour une mission de la plus haute importance en Chine. Étudier l'épidémie de peste bubonique qui frappe le pays. La peste noire, celle qui a décimé l'Europe au XIVe siècle. Au mépris de sa propre sécurité, il se rend à Hong Kong et bataille pour qu'on le laisse avoir accès aux cadavres. Le coup de génie d'Yersin, quand d'autres s'intéressent au sang des malades, Yersin prélève des échantillons de bubons pesteux, leurs lésions cutanées. Et bingo, le 20 juin 1894, il fait une découverte historique. Dans un laboratoire rudimentaire, édifié à ses frais, dans une paillote, à l'aide de son microscope, il identifie le bacille responsable de la maladie. C'est ce qui deviendra la Yersinia pestis. Eh oui, Yersinia, comme Alexandre Yersin. De retour à Paris, avec l'aide d'Émile Roux et de 2 autres chercheurs de l'Institut Pasteur, il met au point un remède, la sérothérapie antipesteuse. La grande faucheuse a trouvé son maître. Alexandre Yersin, lui, n'a pas trouvé son Graal. Sa soif d'aventure et de découverte scientifique n'est pas étanchée. Avec le soutien d'Émile Roux, il repart en Indochine, cette fois pour fonder un laboratoire d'études des maladies humaines et épizooties locales. Il l'installe précisément à Nha Trang, à leur petit hameau côtier et paradisiaque. Le laboratoire prend de l'ampleur et devient officiellement, en 1904, une antenne de l'Institut Pasteur spécialisée dans les maladies infectieuses des animaux. Pourquoi les animaux ? Car Yersin a compris l'importance du bétail et de la volaille pour l'Indochine. Comme à son habitude, le savant s'intéresse à bien plus que son simple domaine de recherche, et notamment à la santé économique de l'Indochine, et donc à ses ressources agricoles. Lui-même s'est lancé dans l'agriculture pour financer son laboratoire. C'est lui qui a l'idée d'introduire dans le pays la culture de l'EVA, aussi appelée arbre à caoutchouc naturel, qui fera bientôt la fortune du pays. Yersin y fera également importer la culture du quinquina au début de la Première Guerre mondiale, réglant ainsi le problème d'approvisionnement du pays en quinine, alors seul remède au paludisme. C'est lui aussi qui fonde l'école de médecine de Hanoï en 1903. Alors, comment le nom d'un tel ressortissant a-t-il pu être ainsi oublié en France ? Au Vietnam, où il meurt en 1943, et en Chine, où il a contribué aux premières guérisons de la peste, on vénère mieux sa mémoire. À Nha Trang, où il est enterré, le petit pagodon qui jouxte sa tombe est d'ailleurs toujours orné de fleurs et d'encens. Un honneur rare pour un étranger, mais grandement mérité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Alexandre Yersin, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir un écrivain qui a reçu en 2021 le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Bonjour Patrick Deville.
Bonjour.
Bonjour Patrick Deville, vous avez consacré un livre au parcours d'Alexandre Yersin, Peste et choléra, pour lequel vous avez reçu notamment le prix Femina en 2012 et qui fait partie de votre projet littéraire en 12 tomes, Abracadabra. Comment expliquez-vous que le nom de Yersin ne soit pas connu du grand public en France, malgré toutes ces découvertes majeures ? Découvrir le bacille de la peste, c'est pas rien, cependant.
Non, c'est même immense. Alors, avec toute humilité, dire qu'après ce livre, il l'est un peu moins.
Ah oui, un peu, oui, c'est sûr.
Oublié, ainsi qu'en Suisse. Non, je crois que c'est dû au fait principalement qu'il est mort en 1943 en Indochine, sous occupation militaire japonaise. Et que le monde, en 1943, avait d'autres soucis, que lui-même n'a jamais cherché la gloire. Il a passé 50 ans de sa vie très loin de la France et de la Suisse et de l'Europe. Je pense que c'est lié à cela.
Patrick Deville, vous êtes aussi vous-même un grand voyageur. Vous êtes reparti sur les traces d'Alexandre Yersin pour écrire ce livre. C'est indispensable pour vous, en tant qu'écrivain, d'investir les lieux habités par vos héros. Vous avez le même besoin de mouvement ?
Oui, ce sont des livres qu'on ne peut pas écrire en bibliothèque, même si la bibliothèque ou l'archive est indispensable. Et j'étais sur zone, comme on dit dans la marine, pendant 3 ans. J'ai suivi le procès des Khmers Rouges pour le livre précédent, à Phnom Penh, Kampuchea. Et sillonnant ces lieux, j'ai découvert l'existence d'Alexandre Yersin, comme vous, par les quelques années pendant lesquelles il fut explorateur professionnel pour la Troisième République, où ses missions étaient agrégées à une plus vaste entreprise qui était la mission Pavie. Donc j'ai écrit La vie de Pavie également, qui est encore plus oubliée que celle de Yersin. Et plus j'en découvrais sur Yersin, plus ce type me fascinait. Et à mon retour en France, je savais que toutes les archives étaient déposées dans le 15e arrondissement à l'Institut Pasteur. J'ai donc sollicité de l'Institut Pasteur de pouvoir aller consulter les correspondances, à la fois professionnelles, bien sûr, avec les pasteuriens, amicales, avec Calmette, Roux, Pasteur lui-même, et puis surtout familiales, les lettres qu'il a écrites tout au long de sa vie, très très nombreuses, à sa mère jusqu'à la mort de celle-ci, puis à sa sœur. J'ai construit le livre avec ses correspondances de Yersin, et je suis reparti en Asie, sur ses traces, à Nha Trang, au Honba, où il avait fait construire ce chalet suisse dans la jungle froide, à Hanoï, etc.
Et alors, justement, quel souvenir Yersin il laisse dans l'actuel Vietnam où il s'était installé ? Il y est plus connu qu'en France ?
Oui, mais pas tant comme étant le vainqueur de la peste que comme étant un homme de bien. Il a fait beaucoup pour la population de Nha Trang, qui est devenue une station balnéaire, qui était un petit port de pêcheurs à l'époque. Et en effet, il est un bodhisattva. Il y a une pagode qui lui est consacrée, non loin, vous le disiez, de sa tombe qui est là-bas. Et il est toujours vénéré comme un saint homme, comme un homme de bien.
Alexandre Yersin était bien plus qu'un scientifique de génie. C'était aussi un voyageur, un explorateur. Et cette envie de voyage, vous le racontez très bien, elle lui est venue de l'année de ses 26 ans, lorsque pour la première fois il a vu la mer. Ça a été, je crois, pour lui comme une révélation. Qu'est-ce que lui procure cet horizon bleu? C'est après l'avoir découvert qu'il a décidé de tout quitter.
Oui, il y a un côté Rimbaud. Dans le livre, je mets en parallèle les vies de Yersin et de Rimbaud, le génie poétique et le génie scientifique. Et il est suisse, il est né dans le canton de Vaud, comme vous le rappeliez. Il voit la mer en Normandie à 26 ans pour la première fois de sa vie. Il est un scientifique de génie que Pasteur et Roux veulent absolument conserver auprès d'eux. Et néanmoins, il claque la porte et il devient marin, puis il devient explorateur. Enfin, c'est ce qui est fascinant chez cet homme.
À Paris, aux côtés de Pasteur, c'est aussi une brillante carrière de scientifique qui s'offrait à lui. Est-ce qu'il a suscité, peut-être, vous parliez des pasteuriens avec lesquels il correspondait, j'imagine qu'il a suscité leur étonnement, voire leur stupeur, quittant la capitale française pour se faire marin à l'autre bout du monde.
Oui, en même temps, ces jeunes gens étaient tous des aventuriers. C'était très dangereux, puisque c'est lié aussi au progrès technologique, c'est lié à la vapeur, au navire en coque en fer, à l'ouverture du canal de Suez, tout cela est lié. Pour la première fois, on peut se rendre très vite sur les épidémies. Et c'est ce que font ces jeunes pasteuriens. Parce qu'autrefois, c'était trop tard. Et ces jeunes gens qui sont à la fois des scientifiques et des aventuriers savent qu'ils sont là au bon moment pour avoir leur nom en latin collé à celle d'une bestiole, comme Yersinia pestis. Et donc, ils se ruent sur les épidémies. Et certains, comme le jeune Tuilier, épidémie de choléra au Caire, il s'y rue, il l'attrape et il meurt et c'est terminé. Enfin, c'était des casse-coups. C'est un peu comme les premiers aviateurs, c'est la même période.
Yersin, c'est le héros à qui tout semble réussir, touche à tout, explorateur, il voyage, on vient de le dire, au mépris du danger, scientifique de génie, il fait des découvertes majeures en plus. Est-ce que vous lui avez quand même trouvé des faces sombres à ce personnage?
C'est très difficile, il est énigmatique. C'est réellement ce qu'on appelle un héros positif. Et c'est souvent plus difficile d'écrire la vie d'un héros positif que d'un salaud. Et on ne peut rien reprocher à Yersin. Si ce n'est que ça n'est pas un type qui devait être très drôle dans le commerce quotidien. On peut lui reprocher, par exemple, jamais de sa vie n'a poussé la porte d'un bistrot, quoi.
C'est pas sociable, quoi.
C'est une ascèse, une solitude, un travail dur avec les hommes comme il l'était avec lui-même.
Alors, vous parliez de la correspondance qu'il a laissée, que vous avez construit d'ailleurs votre livre autour de cette correspondance. Qu'est-ce qu'elle révèle justement de sa personnalité? On sait qu'il n'était pas très drôle, mais...
Il l'est parfois avec sa mère, hein. Mais c'est justement vraiment en privé. Il y avait quelque chose de touchant parce qu'en plus ça n'avait pas été saisi aux archives magnifiques de l'Institut Pasteur. J'avais entre les mains les feuilles de papier écrites à la plume sur un bord de paillasse ou dans sa maison à Niachuang, un peu partout dans le monde, et dont il pensait, les écrivant, qu'elle disparaîtrait, que seule sa mère... Enfin, il y avait un peu, une espèce de sacrilège à la Toutankhamon, de ma part, à lire cela par-dessus l'épaule de sa mère, quoi. Mais non, en privé avec sa mère et sa sœur, il lui arrive d'être drôle, et quand il lui écrit de Hong Kong, après la découverte là du bacille de la peste, il lui dit, et maintenant que tu as lu la lettre, lave-toi bien les mains.
Et pourquoi cette figure des sciences et de l'exploration gagne à être connue selon vous? Il nous apprend à mieux observer le monde qui nous entoure. Pourquoi vous aviez envie de le faire connaître?
C'est une vie. Je n'écris pas de fiction, hein. Ce sont des romans sans fiction, donc je cherche des personnages, pas tout le temps, des personnages positifs. Mais il me semble que c'est un bel exemple. Enfin, je pense aussi à des adolescents qui peuvent, c'est exaltant pour soi-même et pour l'humanité.
Merci beaucoup, Patrick Deville. Je rappelle que Peste et choléra est toujours disponible aux éditions du Seuil. Vous avez continué votre tour du monde pour votre dernier roman, Fenua, également paru au Seuil, qui entraîne le lecteur en Polynésie sur les traces de plusieurs héros des mers du Sud. Vous n'avez pas eu envie de vous y ancrer vous-même?
Non, nulle part. Je continue ce projet. Je viens de passer l'hiver en Inde. Voilà, je me sens bien partout et je cherche des personnages partout. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des fous du microscope qui manient l'infiniment petit. Après Rosaline Franklin et Alexandre Yersin, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un artiste de l'infiniment petit.
La rencontre d'un adolescent et d'un microscope a donné le meilleur, mais aussi, nous le savons ici, le pire.
J'ai vu apparaître dans l'objectif des choses minuscules et frénétiques.
C'est pourquoi c'est avec une certaine méfiance que j'ai d'abord pris connaissance de l'histoire du dénommé Willard Wigan, dont le nom de magicien lilliputien issu d'un freak show n'était pas non plus de nature à me rassurer. Je me fourvoyais totalement, Stéphane. Willard Wigan est un des personnages les plus fascinants et les plus attachants dont il m'a été donné de parler ici en 400 émissions.
Avec Macron.
Avec votre ami Macron, ça va sans dire, Stéphane. Calmez-vous. Je voulais... Il faut toujours le citer, vous avez raison.
Mais non, mais...
Je voulais... Il est formidable.
Demain, mais non.
Ah, merci. Je voulais montrer au monde que les choses les plus petites peuvent avoir le plus grand impact. Cette phrase, Willard ne l'a pas prononcée avec un rictus salace comme l'aurait fait David, mais avec la franchise d'une âme pure, tout entière dédiée à l'art. Aujourd'hui, il figure dans le Guinness Book des records en tant que créateur des sculptures faites à la main les plus petites au monde. Pourtant, dans la vie, c'était loin d'être gagné hein, pour Willard, qui voit le jour en 1957 à Wansfield, en Angleterre, dans une famille d'immigrés jamaïcains que nous qualifierons pudiquement, Stéphane, de peu fortunés. À l'école, c'est la tuile. Willard peine à distinguer un M d'un W ou encore un 6 d'un 9. Il est dyslexique et atteint du syndrome d'Asperger, cette forme d'autisme qui produit souvent des génies, mais ça, dans l'Angleterre des années 50, on ne le sait pas. Willard est donc vu par ses professeurs comme tout simplement con. Et par ses camarades comme simplement infréquentable. Très vite, Willard se retranche donc dans son monde intérieur. Ses seuls amis sont son chien, Maxi, et les fourmis qui peuplent son jardin. Il nous fait une Bernard Werber. Les fourmis deviennent son obsession. Mais au lieu de leur consacrer un bouquin, Willard, lui, va décider de les aider. Comment peut-on aider des fourmis? Eh bien, en leur construisant des mini-maisons qu'il bâtit avec des copeaux de bois et des éclats de verre. Après avoir construit quelques immeubles à fourmis, comme il dit, il passe en mode Valérie d'Amido. En confectionnant des meubles à ses petits locataires qui certainement n'en demandaient pas tant. Là, vous vous dites, c'est bon en termes de construction microscopique, le type peut difficilement faire mieux que des meubles pour fourmis. Eh bien si, Stéphane, réfléchissez. Des habits pour fourmis. Oui, des petits manteaux, des petits chapeaux réalisés avec des chutes de tissu. Oui, David, techniquement, c'est autre chose que de se pignoler dans un microscope. Car très vite, la passion de Willard pour la création microscopique se meut en passion pour ce qui n'existe pas encore à l'époque et que Willard va inventer à lui tout seul, l'art microscopique. Alors qu'il souffre des brimades de ses camarades de classe qui le prennent pour un attardé, un weirdo, Willard commence à, en effet à rêver d'un art qu'on ne pourrait pas critiquer. Et pourquoi on ne pourrait pas le critiquer? Ben parce qu'il serait invisible. Dès l'adolescence, Willard réalise des microsculptures dans des têtes d'allumettes. Je ne sais pas si vous visualisez. Un jour, il décide de montrer ses créations à sa maman. Le verdict est sans appel. « Ok, mon fils, ça c'est un truc que tu fais bien, alors fais-le, mais sois le meilleur dans ton domaine. » Alors, peut-on vraiment parler d'un domaine, hein, la construction de personnages en cure-dents insérés dans un chat d'aiguille, c'est encore très niche à l'époque. Willard quitte l'époque à l'âge de 15 ans, trouve un emploi en usine pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en continuant à tripoter ses petits engins. Et là où David avait été très vite confronté aux limites de l'infiniment petit.
L'amour physique avec le timbre est compliqué.
Voilà. Willard, lui, eh bien, il va transcender ses limites. Plus il montre ses créations autour de lui, plus il reçoit des compliments. Les gens ont l'air sincèrement épatés. Sa mère est fan et lui donne ce conseil. Le plus petit tu tailles, le plus grand tu seras. C'est exactement ce que va faire Willard. Toujours plus petit, toujours plus fou. Une princesse dialoguant avec une grenouille. Une autre jouant de la mandoline au pied d'un arbre. La statue de la liberté. Un ours polaire. Le dernier dîner de Jésus dans une micro-reproduction de la scène. Certaines de ses créations sont si petites qu'elles peuvent, je cite, tenir dans un point de ponctuation à la fin d'une phrase. Ses outils de travail, un microscope bien sûr, des miettes de pain, du sable, des éclats d'or, de la poussière. C'est donc essentiellement dans le trou d'une aiguille qu'il construit ses œuvres artistiques, qu'il cisaille avec des éclats de diamants. Un seul coup de jus, une brise, même un soupçon d'électricité statique peut foutre en l'air des mois de travail. Le processus est d'une rigueur inouïe et n'autorise aucune approximation. Il crée ses œuvres d'art, forcément la nuit, sans bruit, en retenant sa respiration car au moindre souffle, Bye bye la princesse. Il détend son corps en méditant avant de démarrer chaque séance de travail et tente de tailler minutieusement entre ses battements de cœur. Stéphane, pourquoi ? Parce que c'est entre deux battements de cœur que le sang circule le moins dans les doigts. On en est là. Élaborer la moindre sculpture lui prend plusieurs mois. Et après, c'est pas fini, il faut la peindre.
On le voyait en action avec son sexe.
Mais non, Stéphane, pas avec son sexe. On parle de sculpture qui mesure quelques microns, pas plus grand qu'un chat d'aiguille. Non, il peint avec son pinceau fétiche un poil récupéré sur le dos d'une mouche morte. Pour l'assemblage, mais c'est précis, c'est pointu, c'est Willard. Pour l'assemblage, il utilise un fin mélange de colle et de toile d'araignée. Et là, vous allez me dire, mais Mathieu, comment fait-il ensuite pour déplacer l'œuvre d'art ? Eh bien, avec l'un de ses cils, Stéphane. Il s'agit là de l'étape la plus délicate de tout le processus. À ce stade, il suffit d'un rien pour que tout bascule. Un jour, une simple vibration d'iPhone que Willard avait laissée sur une table à côté a suffi à tuer Alice au Pays des Merveilles. L'œuvre est tombée au sol, Willard avait réussi à la retrouver, mais tout ça s'est terminé de manière tragique, car il l'a ensuite malencontreusement aspiré Alice par le nez. Les aléas du métier quand on est sculpteur microscopique, discipline méconnue, dont il est donc le plus célèbre ambassadeur, son travail est désormais reconnu dans le monde entier, Willard est riche et respecté. En 2007, il a même été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. À l'occasion du jubilé de la reine, il a sculpté la tête d'Elisabeth II sur un grain de café. Je vous invite à découvrir le résultat sur Internet. Une chose est sûre, son histoire est un formidable message d'espoir pour tous les dyslexiques et tous les dyscalculiques. On peut réussir, malgré le handicap. Pas vrai Stéphane ?
En 1936 et 1937, puis encore une fois, deux ans plus tôt, en 1946. Alors là, ça va pas. Ah oui, des âmes. Oui. En 1947 et deux au Tour de Suisse cette même année, 1948, et la précédente aussi.
Les dyscalculiques peuvent devenir des génies. Et des gens célèbres, Stéphane, vous êtes avec Willard Wigan le plus bel exemple de réussite malgré tout.
Je vais aller voir sur internet des photos pendant votre...
C'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il fait.
C'est hallucinant. Ouais,
il est hyper attachant, il a eu un destin émouvant.
Mais comment on valorise ces sculptures ?
Pourquoi on mettrait des millions dans du Jeff Koons, des énormes
trucs ? Non, je suis d'accord.
Là, c'est tout petit. Vous les regardez au microscope, si vous voulez en profiter.
C'est moins pratique pour vos amis qui viennent chez vous. Quoi.
C'est un art qui n'est pas Mathieu vu, en plus. C'est magnifique, vous pouvez dire.
C'est tout à fait
millions de dollars. C'est tout moi, ça.
Vous avez une galerie de... Pour avoir ses œuvres, une galerie de microscopes.
Voilà. Ça serait une idée. Je ne sais pas si c'est comme ça que les gens collectionnent. Voilà.
Merci beaucoup Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos fous de microscope, bien que David soit toujours avec nous.
Vrai, il reste là pour retrouver Stéphane, un fou d'andouillette. C'est Olivier Pouls.
Pas besoin de microscope pour l'avoir.
L'andouillette, mais d'où vient-elle?
C'est plus petit que l'andouille quand même.
Qui l'a créé?
On
aura la réponse. Vous avez un nom?
J'ai pas un nom à vous donner, mais en tout cas, il y a une époque et puis une ville qui prétend avoir en tout cas la paternité, le berceau de naissance de l'andouillette.
Mais quel est le berceau de naissance du hand spinner que nous a rapporté en studio David Castello-Lopez? Ce petit objet, ce petit jouet qui a fait fureur chez les jeunes, enfants il y a quelques temps, puis ça s'est arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce que le hand spinner, David Castello-Lopez?
Oui, effectivement, il faut d'abord que je commence par dire un mot de ce que c'est que le hand spinner. Le hand spinner, c'est ce petit objet que je tiens dans la main. Alors, ceux qui regardent sur la vidéo, ils peuvent voir les autres. Pour les autres, je vais te décrire. C'est une sorte de plateforme à trois branches avec en son centre un petit disque. On prend le hand spinner en le mettant entre le pouce et l'index et on fait tourner les branches et ça tourne d'une façon délicieusement fluide en faisant un bruit d'efficacité mécanique hyper agréable. Regardez, voilà. Voilà, on entend même à la radio. J'ai souvent parlé des modes fulgurantes dans cette chronique, le pins notamment. Ça a duré peut-être un an et demi, deux ans. La tectonique qui a duré à peu près autant. Mais je sais pas si j'ai déjà parlé d'une mode aussi fulgurante que celle du hand spinner. Le hand spinner, ça n'a duré que quelques mois en 2017. Brusquement, tout le monde s'est mis à faire du hand spinner. Il y en avait dans les mains de tous les enfants et de plein d'adultes aussi, dont j'étais au bureau, dans la rue. Il y avait des hand spinners. J'ai un spiné, ma race.
Mais c'est quoi? C'est un anti-stress?
C'est un jouet. Il y avait des spinners lumineux, il y avait des spinners métalliques, il y avait des spinners en bois. Et puis, de façon tout aussi brutale, à la fin du printemps 2017, ils ont disparu. Au point qu'aujourd'hui, ils sont même assez difficiles à trouver dans le commerce. Moi, j'ai été obligé de passer des coups de téléphone pour trouver quelqu'un qui puisse m'en prêter un pour cette chronique. Heureusement, Simon Guérini, un des réalisateurs de l'émission, il en avait un chez lui qui m'a apporté et que j'ai à mon tour.
Ce qui veut dire que Simon, à l'âge de jouer au Hans Zimmer en 2017, il avait donc 8 ans.
Oui, enfin, moi, j'en avais déjà 67, 42 et je jouais déjà. J'arrête pas de jouer avec le Hans Zimmer depuis tout à l'heure et j'ai retrouvé très vite le plaisir qui a fait son succès.
Parce que surtout, lui donnez pas de microscope.
Rien de porno dans le Hans Zimmer. Quand on fait tourner les branches du Hans Zimmer et qu'on le fait légèrement bouger entre son pouce et son index, ça fait une sorte de massage des doigts extrêmement agréable et qui était une sensation qui était inédite à l'époque que j'ai retrouvée là.
Faut vraiment que je te présente deux trois trucs, toi, parce que les trucs plus agréables dans la vie.
C'est vrai. Bah, j'ai pas dit qu'il y avait pas des trucs encore plus agréables. C'est juste que c'est assez étonnant en tout cas, je pense que c'est un plaisir qui ne peut être produit que par le hand spinner. Mais alors, d'où il vient? Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien. Quand la mode a explosé en 2017, il y a plein de gens qui ont essayé de trouver, des journalistes dans tous les sens, au New York Times, au Guardian, et ils ont mis la main sur une dame qui s'appelle Catherine Ettinger, qui était une américaine. Il y a eu des articles sur elle partout. En 1993, certes, Catherine, elle a inventé un jouet qu'on tourne sur ses doigts, mais franchement, quand on voit la photo de l'objet qu'elle a inventé, on se dit que ça n'a pas grand-chose à voir avec le hand spinner tel qu'on connaît. Il y a une autre histoire plus convaincante qui a été déterrée, c'est celle d'un ingénieur en informatique de Seattle qui s'appelle Steve McCoskery. Steve, il passait beaucoup de temps dans des réunions reloues et il avait tendance, comme un petit peu tout le monde, à ouvrir et à fermer son stylo en permanence. Et il s'est dit, pourquoi je fabriquerais pas un objet dont l'unique but ce soit d'occuper mes mains quand je m'ennuie? Et il a fabriqué tout seul chez lui en 2014, ce que certains considère comme le premier hand spinner de l'histoire. Il a posté des photos de l'objet en ligne et dans un premier temps, il en a fabriqué quelques-uns pour ses amis et les gens qui lui en demandaient. Ça coûtait plusieurs centaines de dollars à l'époque, mais c'était ultra confidentiel. Et la vérité, c'est, je répète, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment le hand spinner est passé de cette confidentialité au phénomène mondial que ça a été. En janvier 2017, les requêtes Google sur le hand spinner ont commencé à monter, puis elles ont explosé. Tous les magasins de jouets du monde se sont précipités pour en fabriquer, d'autant plus facilement d'ailleurs qu'il n'y avait aucun brevet qui protégeait le principe du hand spinner. Oui. Et à un moment, pendant ces mois-là, les ventes du hand spinner, elles sont représentées jusqu'à 17% des ventes quotidiennes de jouets en ligne. Le pic, il a eu lieu au milieu du mois de mai 2017, et de là, ça s'est écroulé exactement aussi vite que c'est venu. Il y a une époque où les jouets, ils mettaient 100 ans à se ringardiser. Aujourd'hui, c'est 3 mois. Voilà. Même pas.
3 mois, la date de péremption du hand spinner. Vous allez me donner, je vais essayer, parce
Bien sûr.
Je crois que j'ai jamais essayé, j'ai même pas essayé celui de mon fils. Alors on va voir. Merci en tout cas pour cette chronique, David, même si on n'a pas le nom.
Faites le tourner et ensuite bougez un tout petit peu.
Ah oui, ça masse.
Ou bougez votre main comme ça.
Ah oui.
Vous voyez?
Ah oui, mais je sens qu'on a un spinner de grande qualité là. Je pense que tout ce n'était pas.
Ah oui, très bien. Il est, Simon m'a dit qu'il avait été imprimé avec une imprimante 3D.
Voilà. Ah bah ça sent. Je vais vous dire, ça sent. Hein, moi, tout de suite, je m'en rends compte. Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et vidéo, sur YouTube, Dailymotion et sur l'excellent site europe1.fr.
Et maintenant, on va parler cuisine, évidemment, avec l'andouillette d'Olivier Pouls.
Qui n'est pas une mode éphémère, elle.
Elle sera toujours à la mode, l'andouillette.
Oui. Ah oui.
À la mode de Lyon. Non
Entre autres. Parce que si on fait le tour de France des andouillettes, on n'a pas terminé, les amis, il y en a quand même beaucoup. Vous l'avez dit, l'andouillette de Lyon avec la fraise de veau, l'andouillette de Lorraine, l'andouillette de Chablis à base de vin blanc et d'escargot. Et puis, c'est pas mal ça. Je peux vous garantir que ça paraît surprenant comme ça, mais c'est absolument c'est délicieux.
Parce que c'est vrai que les textures sont voisines.
Donc il n'y a pas une recette unique en France de l'andouillette.
Non, alors la ville qui se prétend être le berceau de naissance de l'andouillette, c'est Troyes. Fameuse andouillette de Troyes. Alors, il raconte énormément de légendes sur l'histoire de l'andouillette, des légendes militaires. Mais le problème, c'est qu'aucune de ces légendes n'est vérifiable. Donc, ce que l'on sait, ce dont on est à peu près certain, c'est que entre l'andouillette et l'andouille, je vais vous parler de la différence qui est faite aujourd'hui, mais il y a probablement une histoire commune. Et en fait, l'andouillette serait une fille de l'andouille, si on peut dire. Alors, l'andouille, on la connaît depuis le 16e siècle. Il n'y a pas beaucoup de doutes. Et en fait, dans les premières mentions d'andouillette, on parle d'andouillette, c'est une petite andouille. Ce n'est qu'en 1915, c'est-à-dire assez tard, que l'andouillette va vraiment être définie d'un point de vue légal et qu'on va arrêter le contenu, la préparation et exactement ce qu'elle doit être ou ce qu'elle peut être, puisque comme vous l'avez vu, il y a plein de sortes d'andouillettes différentes. préparé avec différentes parties du porc, mais aussi du veau et parfois donc d'autres ingrédients. On l'a dit, l'andouillette de Chablis, par exemple, intègre des escargots. Alors son nom, l'andouille, vient du latin inductile, qui veut dire introduire dans le boyau. Voilà. Alors la différence entre l'andouillette et l'andouille, est-ce que vous la connaissez?
L'andouille, ça se mange froid, et l'andouillette, c'est chaud. L'andouille, c'est froid, ça se mange comme ça un peu à l'apéro. C'est assez relevé.
C'est plus gros aussi. Elle est en général, donc elle est déjà cuite et elle est fumée.
Ah, voilà.
Alors que l'andouillette,
c'est bon aussi.
Eh bien,
moi j'aime les deux.
Hein. Vous l'achetez en général crue et vous devez la cuire vous-même. Alors, on parlait tout à l'heure du fameux label. A5A, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez la fameuse andouillette 5A?
Les amateurs d'andouillettes
C'est pas mal. Ça date des années 60, une association à but non lucratif qui s'est créée pour assurer la promotion de l'andouillette, mais surtout, entre guillemets, labelliser les meilleurs. Et alors ça veut dire association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques.
Et c'est eux qui
éventuellement sont habilités à dire que l'andouillette que vous produisez est digne de cette association. Et donc c'est une forme de reconnaissance.
Toutes les andouillettes.
Je pense que ils en goûtent beaucoup.
Ils passent leur journée à ça.
Mais surtout, je pense qu'il y a aujourd'hui des producteurs d'andouillettes qui soumettent leurs andouillettes à la dégustation de cette association afin de recevoir...
C'est quoi votre métier? Je goûte des andouillettes toute la journée.
Et leur donne le quintuple A ou pas.
Et c'est vrai qu'ils doivent avoir des gens, elle est à but non lucratif, mais il doit y avoir des employés de cette association qui effectivement font ça.
Et surtout, je peux vous dire que toutes les andouillettes qui leur sont soumises à dégustation ne sont pas labellisées. Je crois qu'il y a aujourd'hui très peu d'andouillettes, en tout cas une grande minorité
des andouillettes. Vous avez déjà vu un resto qui sert une andouillette qui n'est pas quintuple A?
Non, mais dans les restos dans lesquels vous allez, non, mais je peux vous dire que dans d'autres restaurants,
dans n'importe quel restaurant où il y a de l'andouillette, ils mettent toujours andouillette A.
Je garantis qu'il y a plein d'andouillettes, notamment un peu industrielles que vous trouvez notamment dans la surface, qui ne sont pas dignes d'être andouillettes 5A. Alors vous avez aussi l'andouillette à la ficelle. Vous savez à quoi ça correspond? Parce qu'on trouve beaucoup ça aussi, cette dénomination. Alors ça correspond à une andouillette qui est dressée à la main, et donc contrairement à des andouillettes qui sont un peu plus industrielles où on met dans le boyau, là c'est encore mieux. Les andouillettes de Lyon par exemple on dit qu'elles sont tirées à la ficelle et qu'elles sont tirées à la main. Dernière petite astuce, et après je vous donne rapidement une recette. La cuisson de l'andouillette, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que elle peut éclater, et au moment où elle éclate, en général, c'est pas très drôle parce que d'abord c'est pas très beau, mais ça peut vous en mettre un peu partout, notamment sur le barbecue. Je vais vous donner une petite astuce, les amis, pour que vos andouillettes n'éclatent jamais.
Vous la mettez dans du papier d'alu?
Non, pas du tout.
On la pique.
On la pique avec une très fine aiguille ou éventuellement un couteau, ce qui va permettre à la surpression de s'évacuer et de l'eau qui est contenue à l'intérieur, de pas faire éclater l'andouillette. Alors, la grande tradition, c'est d'associer l'andouillette à la moutarde.
Ben oui.
Même si Stéphane déplore qu'on n'en trouve plus tellement. Donc la grande recette, c'est évidemment de faire revenir, vous colorez vos andouillettes, vous les enduisez de moutarde que vous avez finalement réussi à trouver.
J'en ai, Stéphane.
Voilà, vous mettez ça dans un plat qui va au four. Vous dépannez. Un peu de vin blanc dans le fond du plat, un petit peu de crème, une échalote, et on termine la cuisson au four pendant 20-25 minutes. On termine en saupoudrant de persil haché. Et voilà, on a cette sauce qui vient napper l'andouillette. Et même si ça sent un peu mauvais, faites des andouillettes, c'est tellement bon.
C'est une belle conclusion. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes, y compris celles qui sentent un peu, sur le site europe1.fr.
Alors, c'est pas le moment de faire l'andouille ni l'andouillette. Ça va être le moment de lutter pied à pied pour savoir qui va gagner la lutte finale.
Moi, j'ai déjà perdu.
L'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Je commence avec vous, Olivier Pouls. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est officiellement le président de la Fédération de Russie. En 2013, il a changé l'hymne russe. C'est vrai ou c'est faux?
J'ai pas l'impression que dans les compétitions sportives on ait entendu un autre. Il est tellement mégalo qu'il aurait pu évidemment composer lui-même une chanson et décréter que elle irait mieux pour représenter la Russie, mais je crois pas, j'ai pas souvenir d'avoir entendu un autre hymne quand on voit les Russes, notamment dans les manifestations sportives. Je veux dire que c'est faux.
Vous avez raison, c'est faux. Il l'a fait en 2000.
C'est pas en 2013. Il l'a fait en 2000 direct. Oui.
Alors avant, c'était ça.
Ça en jette quand même.
Ça, c'était l'ancien.
Et maintenant, c'est ça.
qu'il a remis la musique de l'hymne soviétique.
C'est la musique de l'hymne soviétique, en fait. Ouais, ça. Ouais, ouais. Oui, il a repris l'hymne soviétique.
Mais il a changé les paroles.
C'est vrai que c'est beaucoup mieux.
Mais qui ont été écrites aussi, parce que je me connais un petit peu, elles ont été écrites aussi par le même monsieur qui avait écrit les paroles de l'hymne soviétique, qui était encore vivant en 2000.
Bon, ça vaut presque.
Alors, Mathieu, oui, ça vaut un point.
Oui, moi, pour.
Si Joe Dassin s'appelait Joe Dassin, c'est parce que sa famille venait d'Odessa. C'est vrai ou c'est faux?
Joe Dassin d'Odessa. Mais pourquoi moi j'ai toujours les questions les plus cons, Stéphane? Comme si vous les sélectionnez spécialement pour moi. Joe Dassin, si Joe Dassin s'appelle Joe Dassin, c'est à cause de. Mais pourquoi en plus? Oh. Joe Dassin. Mais non, c'est une. Bah, remarque. Bon, je sais pas. Oui? Non, je sais pas.
Bah, je sais pas.
C'est tellement con, oui, je sais pas.
Oui. Quand son grand-père, qui était juif et qui était russe, a émigré aux États-Unis, il a dit « Je viens d'Odessa ». Les services d'immigration l'ont enregistré à Samuel Dassin.
Ah, d'accord, ils ont mal compris. D'accord, j'ai cru que lui avait choisi. Il aurait dit Joe Dassin, alors à ce moment-là. D'accord, Joe Dassin, c'est une erreur de prononciation. D'accord.
David Castel-Lopez. Je rappelle que chaque question est faite en fonction de la personnalité de chacun. Sur les 7 merveilles du monde, il en reste combien? 1, 2, 0.
Combien il en reste? Les pyramides, c'est dans les 7 merveilles du monde.
Oui. Le colosse de Rhodes, ça y est plus.
Ça y est plus. Les jardins suspendus, non plus. Le mausolée d'Halicarnasse, non plus.
Il n'existe plus.
Ah, il existe encore?
Stéphane, oui, il y a les clés.
Ah. Bah, deux alors.
Il en reste deux, le phare d'Alexandrie. Moi, je dis qu'il en reste deux. On m'a dit de vous dire qu'il en restait qu'une. Les pyramides d'Égypte, mais non. Il reste aussi le
phare d'Alexandrie, il y avait aussi, je crois.
Non, le phare d'Alexandrie n'existe plus.
Oui, mais il était dans.
Il ne reste plus le temple d'Artémis, la statue de Zeus à Rhodes non plus. Par contre, il reste le mausolée d'Halicarnasse. Ça s'appelle Bodrum aujourd'hui. Ah, et je vous recommande d'aller le voir. J'ai eu la chance de le visiter. Donc voilà.
Et le collège de Pierre-Rongardet aussi.
Non, et il y a Mathieu Noël.
C'est la huitième.
La huitième merveille du monde.
Il a essayé de.
Alors. Il faut vous départager tous les trois.
Vous êtes tellement fort.
La fête nationale tombe un 17 décembre. En 1907, c'est un 17 décembre que le premier roi, accède au pouvoir. Une autre date très importante dans le pays, c'est l'arrivée de la télévision. En quelle année la télévision est arrivée au Bhoutan?
J'imagine qu'il y a quand même un truc un peu spécial. Alors j'ai mis 1987.
Oui.
Moi j'ai mis 2003.
1994.
1999. C'est vous qui êtes le plus proche.
Gagné.
C'est Mathieu Noël qui gagne.
J'ai gagné. Ben oui, au Bhoutan, ils n'ont pas besoin. Ils ont l'indice de bonheur.
Et moi,
le
5.
Ça s'est joué un peu.
Dans un mouchoir de poche. Mais c'est une victoire suisse aujourd'hui. Historiquement, votre spécial hommage à David, c'est fini. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain et que vous connaissez le programme.
Oui.
Mais d'accord, mais vous nous le donnez.
Oui.
Très bien.
Ils se sont dit oui deux fois. On réunit des couples qui se sont mariés, se sont séparés, puis se sont remariés. Les stars d'Hollywood Robert Wagner et Natalie Wood, que la mort a fini par séparer. Puis l'écrivaine singulière Carson McCullers, aux histoires d'amour multiples, qui a épousé plutôt deux fois qu'une, Reeves McCullers.
Et moi, ça sera oui, oui et oui. Trois fois oui, c'est le nombre de fois que l'écrivain Jean-Christophe Ruffin a dit oui à son épouse Azeb. Ils se sont mariés trois fois de suite. C'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est beau aussi, vous verrez. Je vous raconte ça demain. Alors à demain Stéphane, à demain les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.